Mardi.
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 Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Mardi, le magazine de la rédaction de Jet FM que vous pouvez écouter le mardi entre midi et 13h et le jeudi de 18h à 19h. Vous avez certainement entendu parler du GIEC international, le groupe d'experts intergouvernemental en charge de l'évaluation de la recherche scientifique sur le changement climatique. Sachez qu'il existe aussi un GIEC à l'échelle locale. Aujourd'hui, je suis en compagnie en studio d'Alexandra et nous recevons Virginie Raisson-Victor. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente du GIEC des Pays de la Loire. Et c'est donc de dérèglement climatique dont nous allons parler aujourd'hui. Et pour une fois, à l'échelle de notre région, nous allons tenter de comprendre les conséquences des grands enjeux climatiques locaux. Quelles sont les perspectives concrètes pour nous, habitants des Pays de la Loire? Car nous sommes inquiètes, Alexandra. Chez nous aussi, on est régulièrement tenté de dire qu'il n'y a plus de saison.
Et oui, Valentine, plus de saison, mais des inondations. Et les rues d'Angers sous l'eau. Un état de catastrophe naturelle, autrement dit un événement non exceptionnel, mais d'intensité anormale et non assurable par les mécanismes classiques. En l'occurrence, pour le moment, les dégâts assurés sont évalués à 1 milliard d'euros au niveau national. En local, on ne sait pas encore. Et donc, ok, rien de complètement exceptionnel avec cette catastrophe naturelle. Ce n'est pas la méga crue de 1910, ni même celle de 1995. Alors quoi? Circuler en barque si besoin, et puis il n'y a rien à voir, surtout sans masque et sans tuba. D'ailleurs, soit dit en passant, les kayaks de 3 places chez Decathlon, c'est 300 euros. C'est moins qu'une toux cabanée, un prix imbattable grâce à une production mondialisée et une logistique planétaire optimisée. Et puis, pour les ménages modestes qui souhaitent investir, pourquoi pas imaginer une prime de Nantes Métropole comme pour les vélos électriques? Un partenariat public-privé avec des initiations de pagaie gratuites pour tous apprendre à ramer? Bon, ok. Là, je m'égare des méandres du fleuve à ceux de la politique fiction. Je flotte un peu trop. Revenons donc à nos moutons, à ceux du ciel, à nos cumulus ligériens. La question c'est donc, est-il juste de parler de catastrophes naturelles alors que les humains modifient les cycles de l'eau, artificialisent les bords de Loire et s'installent sur les prairies, marais, ripisylves, boires et roselières? Vous en pensez quoi, vous? Et vous le sentez? Le doute? Vous sentez la peur qui s'installe? Mais et si? Et si c'était lui, le grand, le terrifiant dérèglement? Et si ces pluies continuent et ces inondations en janvier-février, ce n'était qu'une prémisse de ce temps qui glisse vers les abysses. D'un horizon où la question, pour les Nantais avec une paye, ce serait « Hey, tu préfères à choisir moisir lentement mais sûrement, avec les pieds sur terre, ici, ou partir t'assoiffer, saveur grillée, en 3 jours express à Delhi ?»
Ah, le Nantais qui a si longtemps été en vue du sudiste, de ses hivers en t-shirt et de son bronzage au mois de mai. Est-ce une époque bientôt révolue? Va-t-on bientôt vivre à Nantes sous les températures de Lisbonne? Car ça y est, en Pays de la Loire, il arrive désormais régulièrement que l'on mange les huîtres de Noël dans un jardin, tout juste abrité par un barnum. Aujourd'hui, les gens du Sud rêvent de Bretagne, ça ne vous a pas échappé. Douarnenez va-t-il devenir le nouveau Saint-Tropez? On ne sait pas. Il neige rarement l'hiver, il fait très chaud l'été, le Ligérien découvre l'utilité des volets et des ventilateurs et on se prend à rêver de maisons avec moustiquaires. Est-il si loin le temps où l'on pouvait innocemment passer de longues soirées d'été dehors autour d'un feu à chanter du Brassens sur une guitare mal accordée? Car le feu, désormais, est un risque d'incendie, Alexandra. On a peur de tout. L'adolescent d'aujourd'hui n'a quasiment plus d'insectes écrasés sur le pare-brise de son scooter, mais il sait reconnaître le moustique tigre et a toujours une pince à tique et un vaporisateur 2 dans son sac en été. Les temps changent, Alexandra, le temps change.
Oui, Valentine, mais rassure-toi quand même, hein, on n'en est pas encore tout à fait là. Et cette émission mardi va nous aider à y voir plus clair sous ce ciel et à savoir sans plus d'histoire situer nos territoires, Pays de la Loire, sur cette grande question du basculement climatique. Car au-delà de l'émotion météo instantanée, que disent les données? Où en sommes-nous vraiment sur notre territoire maintenant, mais aussi à horizon de 50 ans? Eh bien, c'est donc de tout cela dont nous allons parler avec vous, Virginie Resson-Victor. Alors, vous êtes géopolitologue et prospectiviste. Vous avez notamment collaboré avec la Commission européenne, l'émission culte pour nous, le dessous des cartes, Médecins sans frontières ou encore le Conseil économique, social et environnemental auquel vous avez présenté en 2023 100 propositions pour la bifurcation écologique élaborées avec 100 entreprises tirées au sort. Et si vous êtes là aujourd'hui, eh bien c'est avec une autre casquette encore, c'est celle de présidente du GIEC des Pays de la Loire. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous expliquer simplement ce qu'est le GIEC des Pays de la Loire ? Est-ce que c'est un calque de cet organisme supranational ?
Alors, il y a des choses similaires, mais au départ, il faut préciser que GIEC, dans le cas du GIEC des Pays de la Loire, ce n'est pas le même acronyme. Enfin, l'acronyme ne dit pas les mêmes choses que pour le GIEC international. D'ailleurs, le GIEC international, c'est en fait une traduction de IPCC, qui est le vrai acronyme officiel. Alors que le GIEC des Pays de la Loire, ça veut dire groupement interdisciplinaire d'experts sur le climat. Et non pas I comme international. Ce sont deux organisations totalement indépendantes, même si nous avons des liens, et notamment nous avons un parrain qui est membre du GIEC international, mais ce sont deux émanations organisationnelles différentes.
Voilà. Il y a une autonomie administrative, fonctionnelle, totale, mais le principe, c'est le même. C'est vous représentez en fait un groupement de chercheurs qui viennent documenter les impacts et la réalité du dérèglement climatique, mais cette fois à échelle régionale, c'est bien ça ?
Le premier point commun, c'est effectivement, ce n'est pas un organisme de recherche, c'est un ensemble de chercheurs. Alors, beaucoup plus interdisciplinaire qu'à l'échelle internationale. Et on va rassembler, agréger l'ensemble des données et des études disponibles sur les questions climatiques et sur ces impacts, les impacts du changement climatique dans la région pour les diffuser, pour en faire des rapports, des notes de vulgarisation, parfois on approfondit grâce à cette façon d'agréger les données disponibles. Mais on n'est pas un organisme de recherche. C'est vraiment, on utilise les données et les études existantes. Et le deuxième point commun, c'est le consensus, c'est-à-dire que chaque note, chaque rapport que nous publions doit être validé par consensus, par l'ensemble des chercheurs en plénière. Donc ça, c'est les deux points communs. En revanche, on a un rôle de vulgarisation, de transmission des connaissances et des savoirs que n'a sans doute pas de la même manière le GIEC international. Et puis, un rôle aussi d'éclairage des décideurs locaux sur les mesures, les orientations qui peuvent être menées pour faire face au changement climatique, à la fois en termes d'atténuation et d'adaptation. Voilà un peu les trois grandes missions qui nous ont été assignées. Et il faut rappeler que le GIEC, au départ, c'est une émanation régionale qui a été menée, enfin lancée par à l'initiative du Comité 21 avec un financement de la région.
Le Comité 21 des Pays de la Loire.
Absolument, du Grand Ouest. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que le financement, parce que ça demande du travail, de rassembler toutes ces données, de les trouver, de les synthétiser, etc., toutes ces réunions, maintenant, nous appuyons sur un cofinancement d'un grand nombre de collectivités du territoire, aussi bien des petites communes que les départements, les métropoles.
Et la région.
Voilà. Donc, et ça, c'est totalement original, parce que dans chaque région française aujourd'hui, vous avez quelque chose qui ressemble au GIEC des Pays de la Loire, enfin des organisations qui réunissent des chercheurs sur les questions climatiques.
Ouais. Acclimatera en Aquitaine, voilà. Par exemple, au Conseil pour le climat en Bretagne. Absolument. Il y a des noms différents, mais c'est la même.
Exactement. Alors souvent, on les appelle les GREC, pour groupements régionaux d'experts sur le climat. Mais effectivement, il y a Acclimatera en Aquitaine, c'est un nom qui n'a rien à voir. Donc voilà, chacun a son nom. L'intention est souvent très proche, mais ce sont des organisations qui, de plus en plus de collaboration, enfin en tout cas un partage d'expérience qui se fait.
Ce qui est original donc, sur le fonctionnement de ce GIEC des Pays de la Loire, c'est le financement par les collectivités.
Qui sont des partenaires, c'est-à-dire que les études qu'on va mener, on va déterminer les thèmes en fonction de leurs demandes, de leurs besoins, de leurs éclairages. C'est pas, voilà.
Mais il y a aussi des différences, c'est-à-dire qu'en Bretagne, par exemple, au Conseil pour le climat, se prononceront des avis sur les politiques publiques. Ça n'est pas le cas.
Absolument. Ça, c'était un point qui était important. C'est une différence importante entre nos deux organisations.
Vous êtes à peu près 25 chercheurs.
Oui, même un peu plus désormais, je crois.
Alors dites-nous, en tout cas, on aura compris que vous vous appuyez sur des données pour produire. On va maintenant rentrer un peu dans le concret. On a fait une petite introduction en parlant des inondations récentes. Y a-t-il déjà un lien entre les deux mois qui viennent de s'écouler pour vous et le dérèglement climatique par rapport aux années, à ce qu'on aurait pu connaître dans les années 80 et 90?
Alors moi, je ne vais pas me prononcer là-dessus au sens où il faut un certain temps pour... On ne peut pas dire juste parce qu'il pleut. Parce que maintenant, on a une légère tendance, dès qu'il y a un événement extrême, c'est l'alternative pour catastrophe naturelle. On parle d'événements extrêmes. Parce que catastrophe d'origine anthropique, ce n'est pas très, très joli. Donc, on va dire événement extrême. Et maintenant, dès qu'il y a un événement extrême, on va tout de suite faire le lien avec le réchauffement climatique. C'est pour ça qu'il y a une discipline qui s'est développée qui s'appelle les sciences de l'attribution et qui va comparer chaque événement et le rapporter à l'histoire des événements pour voir si finalement ça procède de ces phénomènes qu'on disait une inondation centennale ou une crue centennale, si ça procède de ça ou si effectivement on est dans quelque chose qui est clairement lié au changement climatique. Mais ce qui est certain, c'est que dans les impacts du changement climatique en Europe, et y compris donc sur notre région, il y a une évolution du régime des pluies, des précipitations. Plus de pluie l'hiver, moins de pluie l'été.
Et deux saisons, ça veut dire qu'on passe là, on est en train de basculer sur deux saisons et plus quatre.
C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a une concentration. Le total du volume des pluies sur l'année, en gros, ne devrait pas fortement évoluer. Mais c'est plutôt la répartition des jours de pluie et des saisons. C'est-à-dire qu'il y aura peut-être moins de jours de pluie au total, mais avec des pluies plus intenses.
Donc plus de risques d'inondation.
Voilà, et par ailleurs, une concentration des pluies qui vont du mois de novembre au mois de mars-avril. Et beaucoup moins de précipitations après. Ce qui fait qu'on passe effectivement d'une saison qu'on va appeler une saison humide à une saison sèche et non plus sur quatre saisons aussi marquées qu'auparavant. Et ce qui vient de se passer a tendance, enfin peut-être nous donne une indication sur un phénomène qui va être de plus en plus récurrent ou de plus en plus fréquent en cas de fortes précipitations. Donc oui, je ne sais pas si cette année, on peut le rattacher au changement climatique, mais en tout cas, ça préfigure quelque chose qui effectivement fait partie des tendances qu'on attend avec le changement climatique.
Là, quand on parle de tendances, parce qu'on va continuer à l'évoquer, on est à quel horizon ? Est-ce qu'on se place, je crois que c'est vers 2000, est-ce qu'on peut aller jusqu'en 2080, les prévisions du GIEC des Pays de la Loire se situent
alors,
à cette horizon-là ?
Oui, dans les projections, dans les scénarios qui ont, parce que toutes nos études, elles s'appuient au départ sur des scénarios globaux qui ont été établis par le GIEC et ces scénarios, ils dépendent des émissions de gaz à effet de serre. Donc on a un scénario qui correspond à une situation où on ne fait rien. On ne
le scénario rien. Dit haute émission.
Voilà, c'est ça. Et puis ça va jusqu'à un scénario où on met en place des mesures drastiques pour limiter des mesures d'atténuation très importantes et qui permet de stabiliser les températures et le réchauffement climatique d'ici la fin du siècle. Et entre les deux, vous avez évidemment autant de scénarios qu'on peut l'imaginer. On en retient quatre ou cinq principaux. Mais vraiment, on est dans on a un éventail de possibles extrêmement important.
Et la trajectoire actuelle, c'est quel scénario ?
Alors la trajectoire actuelle, c'est pas simple de le dire parce que en fonction, enfin, c'est tellement lié aux émissions. Et il y a une telle évolution aujourd'hui des politiques climatiques que j'aurais du mal à vous dire finalement si on va changer de trajectoire dans la prochaine décennie ou pas. C'est possible.
Mais là, actuellement, celle qui...
On est plutôt sur une trajectoire d'un plus 4, d'une augmentation de la température de plus 4 degrés.
En France ?
Oui, en France. Enfin, même dans la région.
dans la région. Oui, parce qu'il faut savoir que l'Europe est particulièrement touchée, donc plus 4 degrés en France et dans la région Pays de la Loire, ça n'est pas plus 4 degrés à échelle mondiale.
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le réchauffement climatique, aujourd'hui, à l'échelle mondiale, on estime qu'on est à une élévation de la température moyenne qui est autour de plus 1,3, on ne doit pas être loin de plus 1,4 degrés, et on s'approche très vite de plus 1,5 degré. Bon. Mais ça, c'est une moyenne mondiale. Or, la température d'une région à l'autre, déjà entre les océans, la température à la surface des océans et la température à la surface des continents n'est pas la même. Le réchauffement est beaucoup plus marqué sur les continents qu'il ne l'est à la surface des océans. Et ensuite, d'une région à l'autre, même d'un continent à l'autre, ça varie beaucoup. Il se trouve que l'Europe fait partie des régions les plus touchées par le réchauffement climatique. Donc, là où le réchauffement global a atteint, on va dire, plus 1,4 degré depuis la période pré-industrielle, eh bien, c'est-à-dire depuis 120 ans, en gros, eh bien, la région, on a le même réchauffement, mais sauf que nous, c'est depuis 60 ans. Donc, on a un réchauffement ici qui est des températures moyennes qui est deux fois plus rapide qu'à l'échelle mondiale.
Voilà. Et 4 degrés, c'est le scénario d'adaptation sur lequel travaille la France, scénario sur lequel, en tout cas, vous évoquerez ces questions d'adaptation avec Valentine. Si on revient là très concrètement sur ce qu'on vit déjà et ce qui va s'accentuer, vous le disiez, donc des inondations, des sécheresses, des phases de sécheresse très marquées plus de la moitié de l'année, voire même pendant 8 mois de l'année potentiellement. Ça veut dire qu'on va être avec un climat madrilène à Nantes ? Est-ce qu'il y a des compas, si on cherche à rendre un peu tangible à l'horizon, c'est dangereux.
C'est dangereux de faire comme ça parce qu'on se dit, oh bah super, Madrid, c'est chouette.
Oui, la question est un peu provocatrice.
Et en fait, c'est pas tout à fait ça. D'abord parce que c'est une répartition différente des températures, des pluies, parce que on est dans un environnement et des paysages, une biomasse qui n'est pas du tout faite pour des températures de ce type-là. Donc on n'a pas la capacité d'adaptation de notre environnement n'est pas du tout la même que celle des régions de l'Espagne, quoi. Donc et ensuite c'est plus, ça va se manifester plus sous la forme d'événements extrêmes que on va pas devenir méditerranéen, on va pas devenir une région méditerranéenne.
Et oui, en fait les moyennes cachent justement tous ces événements extrêmes.
Exactement. Ça. Donc en fait, ce qui risque d'être plus marqué, c'est une augmentation du nombre, de la fréquence des canicules et enfin des vagues de chaleur et en plus une durée plus longue. C'est ça qui va être frappant. Mais ça ne veut pas dire qu'on va avoir des températures madrilènes tout au long de l'année. C'est plutôt effectivement des événements extrêmes, des inondations plus marquées.
Ça peut être plus de 60 jours par an avec des températures supérieures à 30 degrés et des nuits qui restent tropicales ?
Oui, alors les nuits tropicales, c'est difficile de prévoir, mais oui. Mais dans tous les cas, c'est une augmentation, sauf, attention, là, on parle si on est sur un scénario dit tendanciel, c'est-à-dire où on ne change rien. On a encore une fenêtre où on peut agir, qui nous permettrait d'atténuer. Si on atténue fortement nos émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, on a encore une fenêtre qui permettrait de contenir ce phénomène, en tout cas d'en maîtriser la progression.
Alors on va y venir, mais juste pour finir de décrire ce qu'on cherche potentiellement à contenir encore, on l'a dit simplement sur les effets que ça va avoir sur notre territoire. Ce qui est spécifique en Pays de la Loire, c'est aussi eh bien toute cette façade littorale. Oui. Et là, ça veut dire qu'on est sur un territoire particulièrement vulnérable au niveau submersion, notamment.
Oui, alors parmi les impacts du changement climatique, les phénomènes liés à l'évolution des températures, il y a la dilatation des océans. Alors évidemment, il y a la fonte des glaciers, la fonte des glaces arctiques et antarctiques qui augmente le volume d'eau, mais surtout pour l'instant aussi, c'est la dilatation des molécules d'eau. Donc c'est comme si l'océan est gonflé. Et donc ça produit une élévation du niveau de la mer avec une variation importante possible. Hein. On est dans un scénario, on est à plus 40 cm d'ici la fin du siècle. Dans un autre scénario, on est à plus une augmentation moyenne de 85 cm, voire potentiellement à plus de une élévation supérieure à 1 mètre. Donc une fois de plus, c'est pour ça que c'est très... On est vraiment dans des hypothèses, dans des scénarios qui vont dépendre de nos comportements et de nos émissions d'ici dans les prochaines décennies. Mais dans tous les cas, même dans le scénario le plus bas, l'élévation du niveau de la mer, c'est un phénomène qui est engagé et qui va se poursuivre. Et le problème, c'est que notre littoral, il y a une partie de notre littoral qui est située en dessous, qui est au niveau de la mer, c'est-à-dire qu'on voire avec un arrière-pays du littoral qui est en dessous du niveau de la mer. Et donc, si en période normale, eh bien, ça résiste, mais dès que vous avez une forte houle ou une tempête, eh bien, on a un phénomène de submersion qui arrive plus fréquemment, plus rapidement, à mesure que le niveau de la mer s'élève. Et par ailleurs, vous avez le trait de côte qui recule, évidemment, dans certains endroits, de manière extrêmement marquée, et qui engage, enfin, qui peut avoir des conséquences sur l'habitat côtier, sur les routes, sur les infrastructures. Donc c'est tous ces phénomènes qu'on peut trouver derrière le mot de élévation du niveau de la mer. On voit bien que il y a plusieurs déclinaisons du phénomène, plusieurs types d'impacts pour la région littorale et en particulier la région vendéenne, évidemment, puisque c'est là où le littoral est le plus bas.
Autre impact lié au cycle de l'eau, c'est l'approvisionnement en eau potable. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la Loire là, par rapport à ce qui est en place actuellement et à cette question d'eau saline, de bouchons vaseux? Quels sont les scénarios?
La problématique c'est de notre région, c'est qu'on a peu d'aquifères. C'est-à-dire qu'on a l'approvisionnement en eau, il est surtout lié aux eaux de surface. Les lacs, les rivières. Et ça veut dire qu'on est très sensible aux variations de débit. Parce que l'eau, elle ne vient pas directement de la rivière dans notre robinet. Elle est quand même traitée entre-temps. Elle est prélevée dans les cours d'eau. Et pour la Loire en particulier, et a fortiori à Nantes, parce qu'on n'est pas loin de l'estuaire de la Loire, quand l'été, si vous avez comme on aura moins de précipitations, ça veut dire que le débit des fleuves va diminuer.
Et à la période de 30 à 40%, hein, je crois qu'on est dans ça.
Et la période d'étiage, c'est-à-dire à la fin de l'été, le niveau, quand le débit est au plus bas, le niveau de la Loire est au plus bas, eh bien, le débit est tellement faible que les eaux salées de l'estuaire, ce qu'on appelle le bouchon vaseux, c'est-à-dire une eau qui mélange de l'eau salée et de l'eau, c'est une eau trouble, et de l'eau douce, ce bouchon vaseux peut remonter beaucoup plus facilement parce qu'il n'est pas contré par une des forces de débit suffisantes. Or, si on prélève de l'eau dans ce bouchon vaseux, c'est extrêmement, on ne sait pas la traiter, c'est très compliqué à traiter. Et donc, c'est ça la problématique, c'est en tout cas pour la région nantaise. Et d'une manière générale, il y a aussi le prélèvement dans les rivières, et il est aussi lié à la température de l'eau. C'est-à-dire qu'au-delà d'une certaine température, on ne peut pas prélever l'eau. Avec le changement climatique, l'élévation des températures, le risque augmente que les seuils de température ne permettent pas de prélever autant d'eau en période estivale. Donc c'est les deux principaux enjeux liés pour l'approvisionnement en eau dans le cas des rivières et en particulier le cas de Nantes.
Et très concrètement, alors là on parle de l'approvisionnement en eau potable, mais le GIEC des Pays de la Loire que vous représentez, Virginie Resson-Victor, a travaillé sur les impacts du dérèglement climatique sur la santé. Oui. Sur la santé humaine, qu'est-ce qu'on en sait? Qu'est-ce qui nous attend? Des épidémies, une surmortalité pour les personnes âgées et vulnérables?
Alors, il y a beaucoup de choses. En fait, il y a beaucoup d'impacts. Le principal est lié à l'augmentation de la chaleur. Parce que la chaleur a de multiples répercussions sur notre organisme et sur notre environnement qui lui-même a des répercussions sur l'organisme. C'est des impacts directs et indirects. Alors le premier impact, c'est évidemment ce qu'on appelle le stress thermique, enfin l'élévation de la température du corps. Et pour des personnes plus âgées ou des nourrissons, dont le corps régule moins sa température, ça présente un risque plus important en termes de cardiovasculaire en particulier, un risque de déshydratation plus important. Donc il y a toutes ces pathologies-là dont l'impact est amplifié par l'élévation de la température du corps. Mais après, vous avez effectivement d'autres impacts, je pense, vous parliez d'épidémie, on voit que avec l'élévation des températures, certaines espèces migrent. Et quand elles migrent avec leur virus ou elles migrent avec les bactéries dont elles peuvent être porteuses aussi. Et donc, Et on voit par exemple la dengue ou le moustique tigre en tout cas plutôt qui progresse en France, y compris dans notre région. Or le moustique tigre, c'est celui qui va nous amener des pathologies comme la dengue ou le chikungunya. Et donc c'est un deuxième type de phénomène, c'est effectivement la progression ou les tiques aussi, dont on voit qu'elles se déplacent en même temps que les températures. Après, il y a des pathologies mentales qui sont importantes, l'éco-anxiété. On observe, par exemple, qu'en période de canicule, vous avez plus de suicides. Plus de violence aussi, plus de tension. On le sent bien, d'ailleurs, quand il fait très chaud, on s'énerve plus. Et ben, ça se retrouve dans le travail, ça se retrouve dans les foyers. La violence sociale peut augmenter à ce moment-là. Pathologie mentale, les maladies cardiovasculaires. Et puis, il y a tout ce qui est lié, aux allergies. Et à la pollution, parce que la pollution de l'air augmente avec la chaleur. Et donc, tous les problèmes, toutes les pathologies respiratoires peuvent être amplifiées en période de forte chaleur. Les pollens qui changent, on voit bien, il y a avec le changement de saisonnalité, on a un changement de la présence des pollens et un développement d'allergies. Donc, en fait, j'en oublie, il y a beaucoup, beaucoup d'impacts.
Et alors, ces impacts viennent accentuer des inégalités. Je crois que les femmes sont plus touchées d'ailleurs que les hommes par l'effet de canicule ou par les impacts sanitaires. Oui. Ça, par exemple, c'est assez peu dit et connu.
Oui. Alors, elles le sont de plusieurs manières, en fait. Parce que déjà, leur corps, la thermorégulation du corps humain est moins efficace que celle des hommes. Ça, c'est une injustice biologique. Mais par ailleurs, parce qu'elles restent souvent plus facilement au foyer et dans des foyers plus modestes, dans des habitats qui sont moins bien isolés, ce qu'on appelle les passoires thermiques, eh bien, comme elles restent à la maison, elles sont plus touchées que les hommes ou les enfants qui ont pu sortir, qui ne sont pas à la maison. Qui peuvent aller. Donc, il y a à la fois l'aspect biologique et puis l'aspect social qui c'est un peu un phénomène de double peine pour les femmes qui sont deux fois touchées et même davantage parce que souvent elles sont des aidantes aussi et les aidants eux-mêmes sont plus affectés, c'est plus difficile dans les périodes de forte chaleur. Donc et elles font la cuisine, donc elles sont prêtes sur ce déchet faire la cuisine. Alors qu'il fait déjà très chaud, on est près d'une source de chaleur. Donc il y a plein de phénomènes qui font que les femmes sont effectivement les premières touchées par le changement climatique.
Et donc un effet de renforcement des inégalités qui vient aussi pour les plus pauvres, bien entendu, dans notre société et qui s'accentue. Juste deux dernières questions assez rapides avant de faire une pause musicale et puis de basculer sur la question des possibles atténuations et adaptations par rapport à ce dérèglement climatique. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du coût économique, en fait, de l'impact aussi à échelle économique pour les pays de la Loire.
Alors, on pourrait en avoir. Moi, je ne peux pas vous produire de chiffres parce que parfois, on voit des chiffres sur le temps de points de croissance.
Alors moi, j'ai trouvé 6,38% du produit intérieur brut pour les pays de la Loire selon une étude de l'Université technologique de Delft. Et minimum 143 millions de dégâts annuels pour les catastrophes naturelles.
Alors, ce que j'allais dire, c'est qu'il faut toujours voir qu'est-ce qui est mis dedans. Et c'est là où est la difficulté. C'est qu'est-ce qu'on met ? Est-ce qu'on met les coûts de la santé, par exemple, dedans ou pas.
Est-ce là, que... c'était uniquement catastrophe naturelle.
Voilà. Ah oui, donc,
c'est une vision,
d'accord.
Une petite...
Parce que la baisse de productivité, y a effectivement tout l'aspect événements extrêmes, l'assurance, mais d'ailleurs des phénomènes qui sont de moins en moins assurés et de moins en moins assurables parce que ce ne sont plus des risques, ce sont des phénomènes qui sont maintenant prévisibles. On ne connaît pas la date, mais on sait qu'ils vont arriver. Donc il y a toute cette question-là. Ensuite, c'est des gens qui arrêtent de travailler parce qu'il fait trop chaud, donc c'est des coûts pour par exemple l'industrie du bâtiment, c'est des fréquentations touristiques qui peuvent évoluer ou qui peuvent chuter parce qu'il y a des inondations, c'est des coûts de la santé, c'est des coûts d'adaptation aussi des infrastructures parce qu'on voit bien les trains qui arrivent en retard parce que les rails se dilatent.
Rien que l'entretien des digues, ça peut être plusieurs milliards à l'horizon.
La productivité au travail qui diminue parce que les gens ils sont plus fatigués. Donc c'est énorme. En réalité, le coût est absolument énorme. Mais moi, je trouve, dans les études qui sortent, enfin, dans les chiffres qui sortent, il faut toujours voir ce qu'il y a dedans, ce qu'on inclut dedans. Et en réalité, c'est souvent sous-estimé parce que précisément, il n'y a pas les coûts de...
Et notamment, il y aurait, dans notre région, qui est une région agricole, aussi, toutes les questions de rendement agricole. Oui. Vous allez travailler, le GIEC s'apprête à sortir, alors je ne sais pas à quel horizon, un rapport précisément sur les enjeux du dérèglement climatique à l'échelle régionale pour l'économie et pour l'alimentation.
Alors, il y a une première note qui doit sortir en mois de mars. On est en train de boucler l'édition sur l'impact des changements climatiques sur l'économie et l'emploi, de manière générale. Et ça sera complété au mois de juin, je crois, juin ou juillet, mais je crois que c'est juin, de deux notes, deux chapitres supplémentaires. L'un portera sur l'agroalimentaire, enfin, les impacts sur l'industrie agroalimentaire et l'alimentation, et un deuxième sur le tourisme, le secteur du tourisme. Donc, et là, on aura déjà un beau corpus d'éléments sur les impacts du changement climatique sur cette économie régionale.
Alors, on l'aura compris, et c'est ma dernière question avant la pause. Là, les impacts dont vous nous parlez, Virginie Resson-Victor, c'est plutôt sur un scénario haute émission qui correspond à la trajectoire actuelle, mais est-ce que c'est déjà tangible? Et puis, d'un point de vue concret, qu'est-ce qu'on peut encore arrêter? Et puis surtout, est-ce que vous allez au-delà? Est-ce que vous allez dans 100 ans? En 1126, est-ce qu'on est capable de prévoir?
Nous, on ne travaille pas sur ces hypothèses-là. On n'est pas sur cette temporalité-là. Et en plus, je vais vous dire, alors ça, je parle plus à titre personnel, mais je ne suis pas la seule à penser ça, au nom du GIEC, c'est que le problème de poser des échéances à long terme, ça démobilise. Parce qu'on se dit, ouais, c'est dans longtemps, je ne serai plus là. Etc.
Mais d'où cette question aussi, est-ce que c'est déjà...
Et en réalité...
Là, ce dont vous nous parlez, c'est déjà en cours, dès 2050.
Il y a eu beaucoup plus de canicules, de vagues de chaleur depuis 10 ans qu'il y en avait eu sur le siècle qui précède. Donc bien sûr qu'on est dans un phénomène déjà présent et un phénomène qui en plus s'accélère. Je pense que, en particulier sur la sécheresse et les phénomènes de sécheresse et les phénomènes de chaleur, toute personne qui a plus de 20 ans... peut déjà le percevoir assez... Et a fortiori, si vous en avez plus de 40, là, vous avez vraiment ce sentiment d'évolution. Effectivement, la Nantes, des canicules à Nantes, c'était quand même pas quelque chose qui... C'était deux mots qui ne se faisaient pas tellement écho, finalement. Hein. Et a fortiori, à Angers, la douceur angevine, etc., etc. Et résultat... Eh bien, on a eu une accumulation de vagues de chaleur importantes ces dernières années. Donc, on voit bien qu'on est dans une tendance d'accélération du phénomène. Et en plus, avec des effets, ce qu'on appelle des boucles de rétroaction, c'est-à-dire que vous avez des effets de seuil qui vont déclencher d'autres, à l'échelle mondiale plutôt. Hein, mais c'est-à-dire que plus le changement, le réchauffement s'accélère, plus vous avez d'autres phénomènes qui vont être déclenchés et qui vont déclencher eux-mêmes des émissions. Je pense par exemple à la fonte du pergélisol ou des zones, enfin l'assèchement de zones humides. Et ce sont des choses, des phénomènes qui s'accélèrent avec le changement climatique et qui eux-mêmes contribuent très fortement au changement climatique.
Et donc un caractère assez imprévisible et une accélération. Temporairement, on va ralentir. On va ralentir en écoutant Summer Times de Sydney, la version de Sydney Béchette, en écho à ce 17 degrés du jour et à ce grand ciel bleu qui est encore à côté de nous. Thank you.
De retour dans les studios de Jet FM, vous êtes dans le magazine Mardi et nous sommes aujourd'hui avec Virginie Resson-Victor, la présidente du GIEC des Pays de la Loire. Nous avons exploré dans la première partie de cette émission les conséquences du changement climatique à l'échelle de notre région et on va poursuivre en s'intéressant aux possibilités d'adaptation et d'atténuation au dérèglement climatique qui s'offre à nous à l'échelle locale. Comment s'adapte-t-on au changement climatique pour éviter le scénario du pire? Comment atténuer le changement climatique pour éviter le scénario du pire? Quelle marge de manœuvre avons-nous à l'échelle de nos villes, de nos campagnes, de notre région? Et on va commencer par partir du diagnostic. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les principales sources émettrices de gaz à effet de serre en Pays de la Loire pour qu'on ait une première idée?
Alors, si on répartit, si on prend un espèce de grand camembert et on regarde quels sont les principaux secteurs de contribution aux émissions de gaz à effet de serre de la région, le premier, c'est l'agriculture, ce qui fait une différence avec d'autres régions, mais c'est moins surprenant dans la mesure, c'est peu surprenant dans la mesure où on est une région particulièrement agricole, avec de l'élevage, hein, une part importante d'élevage aussi. Le deuxième, c'est le transport routier, qui est très proche du secteur de l'agriculture. Et ensuite, dans une moindre mesure, l'industrie, le bâtiment. Donc ça, c'est les quatre grands secteurs émetteurs. Et par ailleurs, il faut rappeler que aux émissions directes du territoire de gaz à effet de serre, aux émissions de gaz à effet de serre directes du territoire, il faut ajouter toutes les émissions importées qui sont à peu près équivalentes. C'est-à-dire que quand on achète un produit qui a été fabriqué en Chine ou en Turquie ou je ne sais où, des émissions de gaz à effet de serre ont été émises au moment de sa production. Et la consommation, la production de ce que nous importons équivaut à peu près à ce que nous-mêmes produisons. Donc il faut doubler ces émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est important parce que ça veut dire qu'on a notre responsabilité dans ce qu'on consomme, évidemment, et dans ce qu'on achète dans ces émissions de gaz à effet de serre.
C'est intéressant de comparer donc, les sources émettrices de gaz à effet de serre dans la région, aussi à celle de l'échelle nationale, vous l'avez dit. À l'échelle nationale, c'est plutôt le transport qui arrive en première position. Et donc nous, l'agriculture, une fois qu'on a fait ces constats, est-ce qu'il y a des préconisations du GIEC? Quel objectif on se donne à l'échelle locale pour réduire ces émissions?
Alors, oui, bien sûr qu'il y a la préconisation du GIEC, c'est de tenir l'engagement qui a été pris par la France et plus globalement par l'Europe, d'une réduction progressive avec une trajectoire. Et évidemment, pour réduire cette trajectoire, eh bien, faut agir sur chacun des secteurs. Ce qui est compliqué, il faut quand même dire que la région est une région qui démographiquement augmente. Donc ça rend les choses difficiles, pour certaines. Il y a des régions où la population diminue. C'est plus simple de diminuer ces émissions de gaz à effet de serre quand la population diminue que quand la population augmente, ce qui est le cas d'une région attractive comme la nôtre. Et une région attractive comme la nôtre, ça veut dire aussi plus d'étalement urbain, ça veut dire beaucoup plus de logements à chauffer. Et donc ça, c'est dans la mesure où on parlait des transports, plus de mobilité, plus d'étalement urbain, ça veut dire, dans les conditions actuelles, plus d'émissions de gaz à effet de serre. Donc ça fait une source de tension, d'où l'idée c'est de réfléchir à une urbanisation et un aménagement qui anticipe ce phénomène-là pour éviter le fait de construire plus de pavillons, plus de routes, plus d'écoles, toujours plus. C'est de rationaliser, de réfléchir à des formes d'aménagement et d'infrastructures qui n'accélèrent pas le phénomène. Ensuite, évidemment, dans l'agriculture, on connaît il y a différentes formes, méthodes agricoles qui sont plus ou moins émettrices. Et typiquement, par exemple, je prends l'élevage dans la région, on nourrit les bêtes en important du soja brésilien. Est-ce que on peut pas réfléchir à une autre façon de nourrir les animaux d'élevage de la région que en important du soja en plus d'une région dont on sait que enfin on connaît les conditions de production du soja brésilien. Donc voilà, il y a beaucoup de évidemment dans les mobilités privilégier les transports collectifs, développer les transports collectifs et les mobilités douces, ça va de soi, mais c'est toujours bien de le redire. Donc il y a énormément de mesures qui peuvent être prises pour atténuer, certaines qui dépendent des comportements individuels, certaines qui dépendent des acteurs économiques, et puis d'autres, évidemment, des politiques publiques et des choix les choix des collectivités.
Alors, pour donner quelques chiffres, vous annoncez quand même sur votre site un objectif de moins 6% par an de réduction des gaz à effet de serre, réduire la consommation d'énergie de 40% à l'horizon 2050. C'est bientôt, 2050. Et des objectifs aussi d'atteindre l'autonomie énergétique des Pays de la Loire. Là, je n'ai pas l'horizon en tête, mais c'est peut-être proche de 2050 également. Bon, on ne s'avancera pas. En tout cas, il y a deux choses. On parle à la fois d'atténuation des risques et d'adaptation des risques provoqués par le dérèglement climatique. Est-ce que ça se complète, l'atténuation, l'adaptation ? Quels sont les liens entre ces deux manières d'appréhender
ces deux objectifs qui sont complémentaires. L'atténuation, évidemment, c'est atténuation des émissions de gaz à effet de serre pour contribuer à ralentir le phénomène à l'échelle globale. Ce qui est très difficile à faire passer, c'est que ça demande évidemment des changements importants, mais sans que l'impact de ces changements soit perceptible à l'échelle régionale. Ce n'est pas parce que vous diminuez vos émissions dans la région que vous aurez le bénéfice de cet effort-là dans la région si aucun autre territoire dans la surface du globe ne fait la même chose. Donc ça, c'est un phénomène, c'est quelque chose de compliqué. Et c'est bien pour ça qu'il y a eu des engagements qui ont été pris à l'échelle internationale pour que cet effort soit un effort collectif. Bon. Après, toute l'incertitude repose sur le niveau d'effort, par exemple, des Américains ou des Chinois qui sont des gros émetteurs. Alors, mauvaise nouvelle côté des États-Unis, tout le monde le sait, mais bonne nouvelle du côté de la Chine, c'est qu'il y a une vraie accélération aujourd'hui de la décarbonation de l'économie chinoise. Donc ça, c'est l'atténuation. Et il faut continuer absolument à insister sur la nécessité d'atténuer parce que pour pouvoir s'adapter aux effets du changement climatique, il faut savoir à quel niveau on situe l'adaptation. Est-ce qu'on ne s'adapte pas du tout de la même manière à un plus 2 degrés, à un plus 4 ou à un plus 5? Les impacts sont radicalement différents. D'où l'importance de maîtriser l'évolution de la trajectoire du climat grâce à des politiques d'atténuation. Autrement dit, il n'y a aucune adaptation qui peut être réussie si elle n'est pas couplée par des mesures d'atténuation et vice-versa. L'adaptation, c'est que ça a été longtemps le parent pauvre de la politique climatique parce qu'on était focalisé sur l'atténuation. Maintenant, face au constat de l'accélération du changement climatique et des impacts qui s'amplifient, il y a évidemment une nécessité d'adaptation parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui sont, je parlais tout à l'heure de l'élévation du niveau de la mer. Le niveau de la mer ne va pas baisser dans d'ici 20 ans, 30 ans. Donc il faut s'adapter. Ça veut dire que dès maintenant, il faut s'adapter à cette évolution-là. Le phénomène de l'élévation des températures de plus 1,5, c'est acquis. On sait que ça a lieu. Donc, de toute façon, il faut déjà les phénomènes d'îlots de chaleur dans les villes ou des choses comme ça. Il faut absolument mettre en place des politiques publiques qui tiennent compte de ces évolutions-là. Donc, c'est les deux jambes d'une même chaise. Non, mais une chaise à deux pieds, c'est quand même ça va pas être très confortable.
Vous avez commencé à nous donner quelques pistes tout à l'heure par secteur. Par exemple, si on prend le secteur du transport, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret d'atténuation, un exemple concret d'adaptation pour que ça soit...
Typiquement, l'atténuation, passer des mobilités carbonées, des moteurs thermiques en particulier, aux mobilités douces.
46% des mobilités en Pays de la Loire, c'est la voiture.
Voilà. Oui, mais une voiture qui électrique et une voiture qui marche à l'essence ou au diesel, ça n'émet pas la même quantité de carbone, même si pour fabriquer, j'entends déjà tous ceux qui la polémique, mais maintenant il y a suffisamment d'études qui montrent que une voiture électrique en France, il y a pas d'ambiguïté, le bilan carbone d'une voiture électrique fabriquée en France est bien moindre que le bilan carbone d'une voiture thermique, même sur la durée, a fortiori sur la durée. Donc ça, c'est l'électrification des mobilités, de certaines mobilités et le développement des mobilités douces en milieu urbain, parce qu'effectivement, faire 30 km à vélo le matin pour aller au travail, je pense à certains métiers ou en milieu rural, c'est compliqué. Mais là, on a déjà une marge d'action qui reste importante, et puis le développement des transports collectifs, justement pour les distances qui ne sont pas accessibles aux mobilités douces, au vélo, à la trottinette ou que sais-je. Et là, c'est le développement de réseaux ferroviaires en particulier. Mais après, vous pouvez avoir des certains segments, parce que le train, ça demande des investissements importants. Donc, il y a d'autres formes de transports collectifs. Il y a des intermédiaires. Il y a des expériences qui sont menées dans les territoires ruraux qui sont assez intéressants aussi, sur des taxis, des formes de taxis collectifs ou des choses comme ça. Il y a pas mal d'expériences qui sont développées. Il faut faire un bilan pour voir quelles sont les plus concluantes. Mais en tout cas, c'est clair que la voiture thermique est c'est là où on a la
principale marge de manœuvre.
Voilà.
Entre autres préconisations, il y a aussi celle d'augmenter les puits de carbone, donc à l'échelle de notre région.
Oui.
Donc globalement les forêts, les espaces boisés. On est dans un département de la Loire-Atlantique où il y a très peu de forêts. Et puisqu'on sait qu'il n'y a plus de forêts vraiment primaires, est-ce qu'on pourrait envisager de recréer des forêts? C'est une option, ça?
Sans aller jusqu'aux forêts, les haies. Préserver les haies et redévelopper les haies. Les haies, sont des réservoirs, des puits de carbone formidables et en plus des réservoirs aussi de biodiversité. Et ce sont des infrastructures naturelles de lutte contre les effets du changement climatique. Donc, parce que ça crée de l'ombre, c'est face au vent, ça protège du vent, etc. Donc, en fait, on peut simplement redévelopper ce qu'on a abîmé. Et le simple fait de redévelopper les haies, mais aussi des forêts, mais on commence par le plus facile, le plus accessible, ça serait déjà...
Mettre des arbres, des haies.
Okay. Voilà. Ouais. Mais il y a déjà des choses qui sont en milieu urbain. Développer aussi ce qu'on appelle les végétaux de tige longue, en gros les arbres, pour créer de l'ombre, pour créer des puits de fraîcheur. Ça, on voit que c'est des choses qui sont déjà bien amorcées dans plusieurs villes de la région. Donc il y a quand même une accélération de ce type de programme depuis quelques années. On ne peut pas dire que rien n'est fait parce qu'en réalité, il y a quand même ce genre de programme est pas mal développé.
Alors quand même, ça dépend beaucoup de choix politiques qui sont faits. Est-ce qu'il y a une réelle marge de manœuvre politique à l'échelle locale, régionale, ou est-ce qu'on est vraiment totalement dépendant des politiques plus globales?
Alors, ça dépend de quoi on parle, mais... tout ce qui est l'habitat, par exemple, on ne dépend pas du national. On est bien l'aménagement d'une ville, le plan urbain d'une ville, c'est pas du national. Ça, ce sont des décisions locales. Or, ce sont la façon de tracer, le fait de planter des arbres dans une ville ou enfin dans les municipalités, ça, c'est pas l'échelle nationale. Non. On a quand même beaucoup de, à travers les PLU, à travers donc tout ça c'est vraiment l'échelle locale. Ensuite, il y a un certain nombre, en termes d'adaptation et de réduction des inégalités, il y a des tas de mesures qui peuvent être mises en place localement. Donc je pense que l'adaptation, c'est beaucoup un enjeu local d'accompagnement, enfin de rénovation de l'habitat, en particulier l'habitat social, d'information, culture du risque, de système d'alerte, toute la prise en charge en termes de l'information et la prise en charge en termes de santé, tout ça c'est local. Non, je pense que en termes d'adaptation, précisément, c'est là où les territoires ont le plus les collectivités et les territoires ont la carte la principale à jouer, beaucoup plus qu'à l'échelle nationale.
J'aimerais bien justement qu'on aborde la question de la justice environnementale. On sait que les personnes, on l'a un peu dit tout à l'heure, les plus durement touchées sont souvent les personnes les plus précaires parce qu'elles sont plus exposées aux pollutions, parce qu'elles ont des logements plus vulnérables aux intempéries notamment.
Des métiers plus difficiles aussi. Souvent.
Des métiers plus difficiles. Alors qu'elles ont l'empreinte écologique la plus basse, ça aussi, il y a de nombreuses recherches qui ont été faites là-dessus. Comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde prenne sa part dans l'effort collectif? Est-ce que les préconisations qui sont faites pour atteindre nos objectifs peuvent se passer de mesures de justice environnementale?
Non, elles ne peuvent pas s'en passer parce que, effectivement, la redistribution de l'effort doit être un peu planifiée. Typiquement, si on laisse faire, Les personnes les plus aisées vont facilement mettre des climatiseurs chez elles, là où des personnes plus modestes n'auront pas les moyens d'acheter une clim pour la mettre chez eux. Or, la clim, c'est émetteur de gaz à effet de serre, c'est ce qu'on appelle la maladaptation, et ceux qui vont en subir les conséquences, ce sont les gens qui vivent dans les appartements, qui sont mal isolés, donc les passoires thermiques. Donc là, c'est voilà, typiquement, ce genre de... bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais en tout cas, c'est vrai que le principe émetteur-pollueur est quelque chose auquel il faut continuer de réfléchir. Il faut le faire intelligemment, il faut le faire dans la concertation, parce que s'il y a quelque chose qui passe mal, c'est l'aspect puni... qu'on va très vite retourner contre ceux qui voudraient mettre en place des politiques publiques de redistribution et de justice environnementale, vont très vite parler d'écologie punitive. Il ne faut pas tomber, il faut montrer que tout le monde y gagne, en fait. En réalité, tout le monde gagne. Plus on saura lutter efficacement contre les inégalités environnementales et face au changement climatique, plus tout le monde en bénéficiera. Sur le plan social, sur le plan politique, sur...
Peut-être que sur les perspectives de lutte contre le réchauffement, et notamment, j'aimerais bien aborder avec vous la question du rôle de la sensibilisation du grand public ou des publics. C'est un objectif que se donne le GIEC de vulgariser les connaissances scientifiques et d'informer les acteurs du territoire sur les impacts du réchauffement climatique. Est-ce que vous, en tant que GIEC, qu'est-ce que vous cherchez à informer en priorité? Est-ce qu'il y a des acteurs un peu cibles?
Les élus, parce que précisément, c'est d'eux dont dépend. Alors pas seulement, une fois de plus, hein, il y a aussi bien le législateur et le citoyen ou le consommateur qui ont un rôle important à jouer. Mais l'élu, c'est cet échelon intermédiaire et à la fois intermédiaire et central pour les politiques d'atténuation et les politiques d'adaptation, aussi bien pour l'aménagement que pour l'information, à travers les écoles, à travers les campagnes d'information qui peuvent être menées. Le système d'alerte, c'est les élus. L'aménagement, c'est les élus. Donc, l'encouragement à certaines mesures, à certains programmes localement, c'est les élus. Les PLU, c'est les élus, etc. etc. Donc, oui, je pense que ceux qui ont l'effort de vulgarisation pour nous est prioritaire, c'est les élus. Mais et ce qui est assez intéressant, j'en profite pour dire ça, c'est qu'on n'arrête pas d'entendre, on entend beaucoup dans un certain type de médias que les gens en ont marre de l'écologie, d'entendre parler du climat, etc. etc. Et on a parlé du phénomène dit de backlash, c'est-à-dire finalement de recul de la législation environnementale, d'abord à l'échelle européenne, mais aussi à l'échelle nationale, y compris sur les questions de pesticides, etc. etc. En réalité... ce qu'on voit, nous, à l'échelle des Pays de la Loire, c'est, et il y a une enquête qui vient d'être menée par le Shift Project qui dit exactement la même chose, c'est que globalement, les élus sont très préoccupés et très concernés par les changements climatiques, aussi bien à droite qu'à gauche. Et ça dément cette espèce de rumeur qui circule sur le fait que finalement, il y aurait une lassitude, et pas du tout. Et les enquêtes qui ont été menées à l'approche des municipales montrent qu'il y a une préoccupation et une vraie envie d'agir des élus, parce qu'ils sont les premiers, quand il y a une inondation, quand il y a un permis de construire qui est refusé, etc., ils sont les premiers confrontés aux effets à ces décisions-là et aux effets de ces décisions-là ou des événements extrêmes. Et donc, ils sont extrêmement sensibilisés et extrêmement désireux, finalement. Et on le voit, ils nous demandent beaucoup de choses.
Hein. Et sur la question de la sensibilisation du grand public?
Alors, c'est essentiel et ça passe par différents niveaux. Les programmes scolaires, probablement qu'il y a encore des choses à faire de ce côté-là. Enfin, moi, j'en juge parce que je vois mes enfants, les connaissances de mes enfants qui sont au collège. Ensuite, il y a évidemment via les parents, cela dit, hein, l'éducation, il y a les enseignants, mais il y a aussi les parents. Non, il y a encore les médias, parce que il y a tout un travail qui a été mené, une enquête qui a été menée sur l'information climatique, et on voit très clairement qu'en fonction de l'origine, enfin, de que certains médias la nature, enfin la catégorie de médias influe énormément sur l'information climatique, y compris sur des médias qui vont cultiver le déni climatique ou qui vont sous-estimer, enfin volontairement atténuer le risque climatique, enfin, etc. Donc ça c'est un, il y a une législation là-dessus, mais il y a encore des choses à faire. Il y a énormément de travail encore en termes de sensibilisation, mais avec cette vigilance qu'on doit avoir, s'il y a effectivement malgré tout un phénomène d'éco-anxiété, et l'éco-anxiété, c'est pas du tout productif pour engager l'action. Si l'alerte est trop forte, si l'anxiété progresse trop, en fait, on s'expose à un phénomène de déni et de rejet. Et l'autre chose qui est très importante, c'est le sentiment d'injustice climatique. C'est-à-dire que le sentiment se diffuse que finalement c'est toujours les mêmes aux mêmes de faire des efforts et qu'on demande toujours aux plus vulnérables, aux plus pauvres, etc. Il y a un rejet. Donc ça, c'est les deux aspects auxquels il faut faire très attention si on veut vraiment engager une sensibilisation et qu'elle soit efficace et qu'elle donne envie d'agir plutôt qu'elle produise un effet de rejet. Ce sont ces deux aspects sur lesquels il faut être très vigilant.
Il semblerait aussi que savoir ne suffise pas à passer à l'action. Il y a un psychologue américain, Peter Kahn, qui nous dit que savoir ne suffit pas et que pour déclencher une prise de conscience, il faut ce qu'il appelle l'expérience de nature. Le niveau d'expérience de la nature dans l'enfance détermine, selon lui, fortement la connaissance, les valeurs associées et l'attachement émotionnel à la nature des humains. Cette expérience de la nature, elle diminue. Malgré qu'on ait plus d'informations sur la biodiversité, le changement climatique, etc., est-ce que si l'expérience de nature diminue, c'est suffisant? Est-ce que ça suffit d'être informé, en fait?
Non. De toute façon, c'est jamais monofactoriel. Il y a un ensemble de choses. Et c'est parce qu'on va être touché par des conséquences et qu'on nous aura expliqué l'origine d'un phénomène par lequel on sera touché. C'est une sensibilité aux saisons. C'est effectivement une éducation. C'est un système alimentaire aussi. Un régime alimentaire qui peut être... vous avez des écoles où il y a toute une pédagogie autour de... ce qu'on mange, d'où ça vient, comment c'est produit. Regardez les enfants, on leur fait planter des... Moi, je trouve ça extrêmement intelligent de faire planter des graines et montrer comment ça fonctionne. Si vous n'avez aucune idée de ce que c'est qu'un jardin, ce que c'est qu'une plante, ce que c'est qu'une saison, vous ne serez pas du tout sensible au dérèglement des saisons. Donc, c'est un ensemble de choses. Et effectivement, entrer au contact de la nature, c'est en plus... de toute façon, l'effet est souvent immédiat, le bien-être que ça peut procurer. Maintenant, ça va être compliqué de... Et c'est ça qui inspire d'ailleurs un mouvement qui est de plus en plus fort, qui est non plus la nature dans la ville, mais la ville dans la nature. C'est-à-dire l'idée de remettre les gens au plus proche de la nature, y compris quand ils vivent en milieu urbain. C'est long, c'est compliqué, je trouve que ça va dans le bon sens, parce que c'est effectivement redonner ce contact à la terre, aux saisons, tous ceux qui ont fait une expérience de jardin le savent, à quel point rien qu'un petit lopin de terre ou un jardin, les jardins collectifs, de ce point de vue-là, c'est extrêmement positif. Ça peut être très positif. C'est aussi une forme de contact à la nature, parce qu'on ne peut pas tous vivre dans une cabane au fond des bois pour être sensible à la nature et à ses bienfaits.
Ça ferait beaucoup de cabanes, étant donné qu'on est nombreux. Il va falloir clôturer cette émission. Merci beaucoup. Peut-être que tu voulais conclure avec quelques références, Alexandra.
Alors, plutôt que référence, moi j'aurais une toute dernière question. Vous êtes observatrice des négociations climatiques et de ces enjeux depuis longtemps, Virginie Resson-Victor. Quelle énergie vous gardez autour de quel espoir est-ce que vous gardez aujourd'hui? Vous l'avez dit, l'éco-anxiété bloque l'action. Donc, on imagine que vous n'allez pas tenir des discours trop défaitistes. Pour autant, sans langue de bois, est-ce que aujourd'hui, pour vous, on n'est pas quand même à la veille d'un péril imminent qui serait davantage finalement à travers l'aspect démocratique et la montée des régimes illibéraux et autoritaires? Vous êtes géopolitologue, vous observez aussi la manière dont ces mouvements communiquent et la montée de pouvoirs populistes de type RN par exemple en France, qui viendrait complètement sabrer toutes ces possibilités d'atténuation et d'adaptation.
Alors, il y a plusieurs choses qui coexistent, vous me posiez la question pour moi. Il y a des moments d'extrême inquiétude, surtout quand on, bon, moi j'ai un certain âge, mais quand je pense à mes enfants, c'est évidemment, c'est très curieux de ne pas pouvoir se projeter, d'éduquer ses enfants sans pouvoir se projeter dans le monde dans lequel ils vont vivre. Parce que c'est exactement la situation quand mes parents m'ont élevé, ils projetaient le monde dans lequel j'allais vivre, même si c'était un peu différent. Mais aujourd'hui, ça n'est plus possible. Et ça, c'est pour moi, c'est très inquiétant, parce qu'en plus, quand on essaye de projeter, c'est plutôt le pire qu'on projette, c'est pas vraiment le meilleur. Donc ça, c'est une chose. Et effectivement, l'idée que ce qu'on a vu déjà s'amorcer à l'échelle européenne, c'était un recul sur ces questions d'environnement, de justice climatique, etc., c'est très préoccupant. Et surtout, pour moi, c'est stupide parce que c'est vraiment se voiler la face. C'est-à-dire qu'on s'est reculé, c'est s'exposer à quelque chose de beaucoup plus dur dans 10 ans, dans 20 ans, alors que si on agit maintenant, on peut mieux contenir, si ce n'est le changement climatique, en tout cas certains de ses impacts. Donc s'y préparer, ça n'a jamais, c'est le meilleur moyen finalement de s'en préserver. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que face à l'incertitude et face à cette tendance, soit on est découragé. Et il y a certains matins où c'est décourageant. Soit on se souvient de ce qui s'est passé dans l'histoire et on sait que les basculements, dans les deux sens, ils sont toujours le produit d'une minorité. Alors, il y a des calculs qui avaient même été faits, vous savez, sur 3,5% d'une population qui peut arriver, si elle est suffisamment diversifiée, si ceci, si cela, qui peut faire basculer une majorité. Moi, je m'accroche à cette idée-là. Je ne sais pas si elle est vaine ou pas. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que c'est dans l'action et dans la cohérence qu'on tient bon. C'est-à-dire que moi, je ne me sens pas déprimée parce que tous les jours, je peux me regarder dans la glace en me disant, ben voilà, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait, ou comment est-ce que je peux travailler, comment est-ce que je peux agir. Et l'autre chose qui est assez intéressante, c'est de voir que d'année en année, eh bien, dans ma famille, on a changé notre alimentation, notre mode de chauffage, notre mode de déplacement. Enfin, c'est petit à petit, hein, on a appliqué ce que je préconise. Et on s'est rendu compte du gain de qualité de vie. Et cette expérience-là, elle se transmet, elle peut se raconter. Et donc, finalement, moi, je m'accroche à le fait de donner envie en montrant l'exemple, le fait d'être actif, parce que si on subit, c'est extrêmement... Ça nous renvoie à notre propre impuissance. Et puis le souvenir de mes cours d'histoire qui montre que les révolutions, elles se préparent longtemps à l'avance, et les contre-révolutions aussi. Et donc, voilà, il faut se passer du bon côté.
Merci Virginie Raisson-Victor.
Et pour se quitter avec une touche créative qui ressemble à Jet FM, on vous propose de réécouter une création qui a été faite lors des 24 heures de création sonore proposées chaque année par Jet. Il y a quelques temps, on avait proposé comme thème 3 degrés et on vous propose d'écouter une des créations qui a émergé de cet atelier, et ça s'appelle 3 degrés en Sarthe.
Dans la ville de Degré, en Sarthe, située dans le canton de Loué, vivait Madame Martin dans un petit pavillon. Denise, de son prénom, avait un mari et 3 enfants. Comme tous les jours, Denise se rend à l'association du petit marché degréen pour acheter un morceau de pain et quelques légumes. Elle en profite pour échanger les dernières nouvelles avec ses voisins.
La fille des Marchus a eu une otite. Heureusement qu'elle s'en est remise.
On a mis Mémé en maison de retraite ce mois-ci. J'espère qu'elle s'y plaira.
Mon petit dernier a perdu sa dent de lait.
Ça fera 1,10€ pour la baguette. En vous remerciant.
Ah bah, mon petit gars, moi, quand j'étais jeune, ça valait même pas 5 francs, ce truc-là.
Ouais, mais faut vivre avec son temps, Maurice.
Au même moment, le mari de Madame Martin est au café du bourg et sirote un demi bien frais.
Oh bah, tu vas pas partir sur une pâte. Allez, ça va. Elle est pas trop forte, ma bière.
Bon, d'accord pour la petite sœur. Mais après, je filoche, il faut que j'aille chercher les mômes à l'école.
Un petit plaisir que Denise Martin lui accorde volontiers. Une fois les enfants rentrés, le dîner est bientôt prêt. Le mari de Madame Martin l'embrasse tendrement. Denise sort dans son jardin et scrute le ciel, se demandant si elle va étendre son linge.
Il fait trop frais, j'ai peur qu'il pleuve.
Malgré tout, c'est le moment préféré de sa journée. Denise Martin aime composer des haïkus dans le silence de son jardin.
Pain frais, les enfants jouent, non, les enfants rient, le soleil... ou la pluie.
Dans la ville de plus 1 degré, en Sarthe, située dans le canton de Loué, vivait Madame Marthe II dans une belle maison. Denise, de son prénom, avait deux maris qui lui avaient chacun fait 4 enfants. Comme tous les jours, Denise se rend à la Fédération du Moyen Marché de Gréin pour acheter un morceau de pain, quelques légumes et du steak de phoque. Elle en profite pour échanger les dernières nouvelles avec ses voisins.
La fille des Marchus a eu la dysenterie. Heureusement qu'elle s'en est remise. Quelle idée de boire de l'eau du robinet aussi.
On a mis mémé à la coopérative gériatrique ce mois-ci. J'espère qu'elle s'y plaira.
Mon petit dernier a perdu 2 dents de lait.
Ça fera 2,20€ pour la baguette. En vous remerciant.
Mais c'est extrêmement cher. C'est les prix parisiens, ça.
Ouais, mais faut vivre avec son temps, Maurice.
Au même moment, les deux maris de Madame Marthe II sont au café du bourg et boivent une pinte bien fraîche.
Oh bah, vous allez pas partir sur une pâte. Allez, ça va. Elle est pas si forte que ça. 8 degrés, c'est rien du tout pour de bonhommes comme vous.
Ok, alors on fait la toilette. Mais après, je filoche. Hein, parce que
après, on filoche, je vais chercher des enfants à l'école.
Un petit plaisir sur lequel Denise Marthe II ferme les yeux. Une fois les enfants rentrés, le dîner n'est pas tout à fait prêt. Les maris de Madame Marthe II s'installent devant la télé en titubant légèrement. Denise sort dans son jardin en soupirant.
Ah, c'est pas facile tous les jours.
Malgré tout, c'est le moment préféré de sa journée. Denise Marthe II aime composer des haïkus dans le silence de son jardin.
Le soleil sur le ciel, la vie qui bat, comme
maman,
un cœur.
Maman, elles sont où mes chaussettes?
Maman, viens.
Dans la ville de plus de degrés, en Sarthe, située dans le canton de Loué, vivait Madame Marthe III dans un grand manoir. Denise, de son prénom, avait 3 maris qui lui avaient chacun fait 5 enfants. Comme tous les jours, Denise se rend à la corporation du Grand Marché de Gréin pour acheter un morceau de pain, quelques légumes, du steak de phoque et des capsules protéinées. Elle en profite pour échanger les dernières nouvelles avec ses voisins.
Après sa greffe de rein de lapin, la fille des Marchus a eu une myxomatose. Heureusement qu'elle s'en est remise. Quelle idée de boire de l'eau du robinet aussi.
On a mis mémé à la ferme cryogénique ce mois-ci. J'espère qu'elle s'y plaira.
Mon petit dernier a perdu 6 dents de lait.
Ça fera 12,20€ pour la baguette. En vous remerciant.
Ça va pas bien, la tête, c'est le prix d'un litre de sang, ça.
Ouais, mais faut vivre avec son temps, Maurice.
Au même moment, les 3 maris de Madame Marthe III sont au café du bourg et s'enfilent des litres de bière bien fraîche.
Et bidon et joufflu, vous avez une descente, j'aimerais pas me le faire en vélo.
10 degrés pour aller.
Allez, papa, on va louper le dernier téléphérique et maman, elle va pas être contente.
Les 15 gosses, ils peuvent se débrouiller.
Un petit plaisir que Denise Marthe III supporte de moins en moins. Une fois les 3 maris couchés, les capsules avalées, les enfants de Madame Marthe III l'embrassent tendrement.
Coucou maman.
Denise sort dans son jardin nourrir son élevage de lapins à reins.
Qu'est-ce que ça peut manger un lapin à reins?
Malgré tout, c'est le moment préféré de sa journée. Denise Marthe III aime composer des haïkus dans le silence de son jardin.
Abruti de mari, abruti de mari, abruti de mari. Ils vont voir, je vais les revendre au marché noir, ils font mal à main. Moi j'en ai marre, je m'occupe de tout ici.
Dans la ville de plus 3 degrés, en Sarthe, située dans le canton de Loué, vivait Madame Marthe IV dans son gratte-ciel personnel. Denise, de son prénom, avait 4 maris à qui elle avait fait chacun 6 enfants. Comme tous les jours, Denise se rend à la multinationale du supermarché de Gréin pour acheter un morceau de ficus, quelques ficus, du steak de ficus et des capsules de ficus protéinées. Elle en profite pour échanger les dernières nouvelles avec ses voisins.
La fille des Marchus vit dans un scaphandre depuis qu'elle a perdu ses os. Heureusement qu'elle s'en est remise. Quelle idée de boire de l'eau du robinet aussi.
On a mis mémé en capsule protéinée ce mois-ci. J'espère que ça va nous plaire.
Mon petit dernier a enfin perdu toutes ses dents de lait d'un coup. Je commençais à m'inquiéter.
Ça fera 1 demi-bitcoin pour la baguette. En vous remerciant.
Oh, mais quand j'étais jeune, ça coûtait 1,10€.
Ouais, mais faut vivre avec son temps, Maurice.
Au même moment, les 4 maris de Madame Marthe IV sont au café du bourg, alités et perfusés à la bière bien fraîche.
Encore quelques litres et on va pouvoir faire des ficus, hein.
Un petit plaisir que Denise Marthe IV apprécie tout particulièrement, car une fois les maris perfusés, les enfants avalés et le dîner couché, les lapins embrassent tendrement Madame Marthe IV. C'est peut-être l'inverse, de toute façon, le résultat est le même, elle est enfin tranquille. C'est le moment préféré de sa journée, glandée en slip dans le silence de son jardin.
Et pour le temps, plus de questions à se poser. Car, à plus 3 degrés, si la vie est déglinguée, ton linge va sécher.
Tiens, ça ferait un joli haïku, ça.
Degrés, en Sarthe. Une fiction radiophonique réalisée par Charlotte Latter, Gabriella Aubineau et Salomé Benoît pour les 24 heures de la création radiophonique à Jet FM 2019. Merci à Damien Fourcault et Liranou. Merci au département de la Sarthe.
Vous étiez dans Mardi sur Jet FM, l'émission donc sur le GIEC des Pays de la Loire avec la présidente du GIEC des Pays de la Loire. Vous pourrez nous réécouter jeudi prochain à 18h sur Jet FM ou en podcast sur jetfm.fr. Merci et bonne journée.